Bonjour à tous, bienvenue sur le 64e épisode de Comic City, l'épisode du mois de mars, enregistré du mois de février, pardon, je suis en train de dire une bêtise.
Mars, mais pas tout à fait.
Oui, on est le 29 février, c'est un épisode que l'on peut faire qu'une fois tous les 4 ans.
Ben, en même temps, j'espère qu'on le refera qu'une fois tous les 4 ans, puisque un épisode assez laborieux, hein, qu'on a déjà commencé il y a quelques temps, quelques heures.
Oui, oui.
Mais secret de la technique, voilà, on n'enregistre pas dans l'ordre dans lequel vous l'entendez.
Et avec quelques petites interruptions non volontaires de grossesse.
Momentanée du son et de l'image, l'image qui est interrompue depuis le début de Comic City, c'est terrible.
Oh putain, n'importe quoi. Alors, ce mois-ci, au programme, trois parties bien distinctes, on va dire même quatre avec les news, mais on a décidé de séparer bien les différents éditeurs, donc on va avoir une partie Panini, une très grosse partie Urban Comics, puisque c'est quand même l'actualité française de ce mois-ci, et une partie sur Delcourt, parce que, mine de rien, il y a des sorties Delcourt, il faut pas les oublier.
Et puis, en plus, c'est des sorties de qualité.
Exactement. On y reviendra tout à l'heure, on va commencer bien sûr par les news. Donc, au programme des news, pas grand chose, hein. Déjà, on va commencer par
Tu l'as fait en allemand, là. Un programme des news. Alors,
en fait, c'était au programme des news, mais c'est un peu mal sorti, en fait. Bon. Très rapidement, donc, on a les chiffres actuellement de Ghost Rider Spirit of Vengeance, donc le Ghost Rider numéro 2. Les chiffres ne sont pas bons du tout. C'est sorti déjà depuis le 17 février, donc ça fait maintenant deux bonnes semaines, hein, voire même un petit peu plus. Bah voilà, aux États-Unis, il a remporté pour le moment 38 567 dollars.
Alors, j'ai entendu dire que le film devrait être malgré tout remboursé.
Ouais, il n'a peut-être pas coûté très cher, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas été le voir encore. Donc,
apparemment, il n'aurait pas coûté cher, puisqu'il devrait rentrer dans ses frais malgré tout, malgré les résultats pitoyables. Mais c'est vraiment une catastrophe, je crois. Et en France, je crois que c'est encore pire.
Alors, actuellement, pour l'international, les chiffres qu'ils ont recensés sont seulement de 4 millions de dollars, ce qui porte le total mondial à 42 567 dollars. C'est pas énorme, hein. En deux semaines d'exploitation pour normalement censé être un gros produit, c'est pas top.
Oui, mais à son corps défendant, il y avait The Artist.
Ouais, enfin, va pas me faire croire que The Artist a remporté.
Ah bah si, il a remporté.
Oui, enfin, il a pas emmené les gens au cinéma.
Ah surtout les gens qui allaient voir Ghost Rider, à mon avis, non, c'est pas forcément le.
Je pense pas que ce soit le même public, ouais, voilà, exactement.
Ouais voilà, je pense pas non plus. Mais c'était juste histoire de faire cocorico deux secondes. Ah, pour une fois qu'on fait un truc pas si mal d'un point de vue cinématographique.
Ouais, je ne sais pas, je l'ai pas vu.
Non, moi non plus, mais j'imagine, hein, franchement, que bon, si on reçoit une récompense aux Oscars, c'est que peut-être il y a un truc intéressant à voir là-dedans.
Après, bon, on va pas polémiquer sur les Oscars. Est-ce que c'est pas simplement parce que c'était les petites Frenchies et qu'on avait envie de faire autre chose aussi cette année, le fait que c'était un petit peu, comment on dit, ballsy, quoi. Enfin,
je sais pas s'ils ont forcément envie de nous faire plaisir.
Nous faire plaisir, non, mais de faire quelque chose de différent.
Ouais.
Tu vois. Et puis le fait que c'était un film muet. Tu vois. Enfin, en plus, un film français, un film muet, tu vois, c'est couillu, hein, de faire un film muet à notre époque, donc.
Ouais. En même temps, j'aime bien l'acteur. Enfin voilà, je trouve qu'il est.
Mais ça n'enlève rien à la qualité ou pas du film, puisque je l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger. Mais je me demande s'il n'y a pas. Je vais pas dire que c'est truqué, hein, loin de là, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un certain parti pris, puis sachant qu'il a remporté tellement de prix ailleurs tout au long de la saison des prix là depuis 2-3 mois, que finalement ils se sont un petit peu obligés de filer des prix à The Artist pour pas passer pour des gros cons et auto-centrés sur les États-Unis.
Bah de toute façon les Oscars qui sont ces gens-là? Qui surveille les Oscars? C'est comme les Watchmen.
Des corporations.
Bah ouais, bah voilà, c'est déjà ça veut pas dire grand-chose.
Moi à la rigueur, ce que je regrette un petit peu ces dernières années, puisqu'on est sur le sujet des Oscars, c'est que généralement c'est un film qui est vachement récompensé. Et puis c'est tout quoi. T'as deux ou trois films qui sont vraiment récompensés aux Oscars et c'est tout. C'est pas genre l'Oscar du meilleur scénario va à tel film et le film est primé que pour cet Oscar là. Et puis voilà, il y a je sais pas 15-20 statuettes décernées tout au long de la soirée et que finalement au total il y ait je sais pas une douzaine de films de récompensés. Non, aujourd'hui t'as quoi 2-3 films maximum par Oscar et ils en remportent 4 ou 5 chacun. On voit Hugo Cabret, hein, on a gagné 5.
Ouais.
Artiste en a gagné 5, ça fait déjà 10 Oscars.
Ouais, ouais.
Il reste quoi pour les autres?
Bah,
je veux bien qu'il y ait des films qui soient au-dessus du lot, c'est certain. Est-ce que c'est pas une solution de facilité parce que c'est un petit peu le même scénario tous les ans? On va pas me faire croire que tous les ans, il y a vraiment un film qui sort du lot comme ça. Enfin, ça saurait. Ça saurait.
Ouais. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est Lady Oscar. Voilà.
C'est pourri. Pour revenir à Ghost Rider, qui ne sera sûrement jamais primé aux Oscars, et forte raison, je pense.
On les remercie d'avance.
J'ai les chiffres du week-end, des deux premiers week-ends aux États-Unis. Hein, le premier week-end de sortie, donc le week-end du T7, hein, puisque le week-end aux États-Unis a tendance à commencer le vendredi soir, le moment de la sortie des films. 22 millions de dollars hein, sur son premier week-end. Et le deuxième week-end, la chute est terrible, puisqu'il ne remporte que 9 millions de dollars sur le deuxième week-end, soit une chute de 59%, presque 60%. La preuve que le film est pas si bon que ça.
A fait un très bon bouche à oreille. Mettons ah, mauvais sens.
Carrément. Donc voilà, bon bah ce sera pas avec Ghost Rider que Marvel va remplir les caisses.
Ouais.
En même temps, on s'y attendait.
En même temps, fallait pas qu'ils viennent en moto pour remplir une caisse.
Oui, oui, bravo, oui, Van. Ok, excusez-moi. Je n'y étais pas. Bon.
Comment dire.
Voilà, on va passer à autre chose. Je crois qu'il est temps. Non, non, franchement, voilà, Ghost Rider, vu l'échec et la mauvaise réputation du premier, que j'ai enfin vu, il est passé, il y a une semaine ou deux, là, sur W9 un soir.
il le passe souvent sur W9 un soir.
J'étais, honnêtement, je l'ai regardé que d'un œil, puisque j'étais au téléphone avec un pote, et donc j'ai passé la plupart du film au téléphone, mais j'ai quand même pu voir deux des plus grands plans du cinéma, je crois.
Ah.
Une scène, alors, tu avais vu le film, Benny?
Oui, malheureusement, oui.
Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène vers la fin où on a Nicolas Cage face à l'ennemi, Blackheart, qui est d'ailleurs très très mal fait, hein, au passage.
Bah, enfin, qui n'en a que le nom.
Ils sont dans le cimetière, ils se regardent, ça va être le duel final, et donc, puisque c'est un duel, on va reprendre les codes du Far West, sauf qu'on fait ça n'importe comment. En même temps, c'est Mark Steven Johnson, on pouvait pas s'attendre à grand chose. C'est-à-dire qu'on a un plan sur Nicolas Cage, un plan relativement éloigné, un plan américain comme on dit, hein, c'est-à-dire avec le buste, voilà. Et on a une accélération en gros plan, un vieux zoom pouf sur son regard uniquement, et ensuite on retourne la caméra, on fait un autre plan américain sur Blackheart, puis gros zoom sur les yeux de Blackheart. C'est quand même le plan, je pense, qui n'a pas été utilisé depuis 1973 dans un western italien de seconde zone. Non, c'est ridicule d'oser faire un plan comme ça, c'est quand même ridicule. Et puis on a ce plan final, qui je pense résume le film à lui tout seul. C'est-à-dire que on a une route, et on voit une moto au loin, puis d'un seul coup, gros zoom, et c'est Nicolas Cage sur sa moto, qui nous fait un regard avec un sourcil levé façon tilk dans Stargate, qui est un plan hautement ridicule, et comme si ce plan n'était pas assez ridicule, hop, il se transforme en Ghost Rider, et vouf, il va dans la caméra, et il disparaît, et c'est le générique.
Putain, et je vois carrément, même sans m'en rappeler, la scène tellement
tellement je la décris bien.
Oui, 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 voilà. tellement c'est ridicule.
Ah non, mais c'est franchement, ces deux plans-là, je pense, résument le film. Donc effectivement, on m'avait dit que c'était une grosse merde. C'est aussi pour ça que je ne l'avais pas regardé jusqu'à présent. Là, l'occasion était là, il passait. J'avais rien de plus intéressant à faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé le film à téléphoner à un pote, hein, tellement je me faisais chier. Réalité, c'est ce pote-là qui m'a appelé. Mais bon, c'est lui qui m'a passé un coup de fil. Mais
on va faire quelque chose pour toi, là. Il faut envoyer des dons à Steve, je sais pas. Mais si t'en es d'être désespéré au point de regarder Ghost Rider parce que tu n'as rien à faire, mais...
Non, mais enfin, voilà, je l'avais mis parce que j'avais rien d'autre de plus intéressant que ça à faire. Disons que j'étais en train de bouffer. Il y a la télé, il y a Ghost Rider. Je me dis, attends. Je l'ai jamais vu. C'est l'occasion, quoi. Donc déjà, en plus, je l'ai mal vu puisque coupé par des pubs, mais comme je dis, j'étais au téléphone, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et finalement, je ne regrette pas d'avoir vu le film en ne le regardant pas.
Hein, en tout cas, c'est sympa pour ton pote parce que ça fait trois quarts d'heure que tu nous dis que tu regardais Ghost Rider parce que t'avais rien de mieux à foutre et que t'étais au téléphone avec ton pote.
Ah non, mais justement, il m'a sauvé. Il m'a sauvé d'un ennui mortel. D'ailleurs, on en a rigolé du film au passage. Bon, ma conversation téléphonique n'intéresse personne, donc je propose qu'on avance.
Ça dépend. De quoi avez-vous parlé?
On s'en bourbe de tellement de choses, des choses surtout que je ne pourrais pas répéter ici, tellement c'est... Je pense que ça ferait saigner les oreilles des gens.
À ce point-là, d'accord, ok.
C'est-à-dire que généralement, on est assez cru quand on parle.
Ouais, ils ont résumé toute la semaine de Plus belle la vie.
Si seulement.
C'est quand même mieux que Ghost Rider.
Non, mais on a parlé de choses naturelles, quoi, de parties à trois, de... Comment dire...
On va en faire une, d'ailleurs, dans ce... Sans rigoler, vous allez avoir une troisième personne.
Oui,
qui va se mêler à nous.
Un invité spécial en Que Store. On va passer dans les news à l'annonce des sorties de Glénat Comics. On en avait parlé il y a de ça quelques mois, que Glénat se lançait sur le marché du comics, là aussi. Et donc, ils nous ont annoncé leur programme des sorties. Alors, des choses intéressantes, qui sortent comme de l'ordinaire. On va avoir, pour des premières sorties, le 28 mars, Anna Mercury, de Warren Ellis, et, si j'arrive à me relire, je pourrais le dire, Facundo Percio.
Ouais, Facundo Percio, oui.
Voilà, une série Avatar, si je me trompe. On va avoir aussi Ignition City, du même Warren Ellis et de Gianluca Pagliarani.
Ouais, c'est-à-dire que Glénat récupère vraiment le fond du tiroir de Warren Ellis, quoi. Warren Ellis fait vendre, donc bon, bah voilà.
On va avoir aussi Stephen King's N, donc la série N de Stephen King, qui est écrite par Mark Guggenheim et au dessin Alex Maleev.
Oui, donc c'est pas des manchots non plus, quoi.
Voilà, des gens relativement bien connus. Alors, je sais pas du tout ce que vaut cette série, j'en ai entendu du bien. Mais je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Et enfin, nous aurons la sortie du tome 2 de Wolfman.
Ah oui.
Et c'est étonnant.
Mais d'ailleurs, je pensais que tu étais déjà sorti depuis le temps, le tome 2.
Eh bien non, il n'était jamais sorti. Et donc, Glénat a récupéré les droits. Hein. Comme je dis, et c'est étonnant. Par Robert Kirkman et Jason Ward, avec un épisode signé Ryan Otley, puisque c'est un crossover avec Invincible.
Mais je crois qu'ils vont ressortir le premier aussi, Wolfman.
Et j'allais y venir. Ils ressortent le tome 1 avec une traduction corrigée par Edmond Touriol.
Oui, donc là, on a une traduction de qualité, puisque Edmond Touriol, c'est quand même...
Mais disons que je pense qu'on va pas revenir sur le désastre qui était Wolfman tome 1, mais de toute façon, je crois pas qu'on puisse faire pire.
Ah bah de toute façon, comme maison d'édition non plus.
On va...
Donc, non, mais...
bon, écoute, on va pas mal casser du sucre sur le dos d'Urban, hein. On fait un petit teasing, enfin, on va pas mal casser. Disons que on a des choses à redire sur Urban dont on va parler tout à l'heure, mais même le côté amateur dont on parlera tout à l'heure n'arrive pas à la cheville de ce qu'avait fait Wolfman 1.
Oui. Ouais, non, c'était vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire dans l'édition du premier Wolfman. Et ben, heureusement, là, voilà, c'est Glénat, donc, on peut espérer que ce soit d'un tout autre niveau.
Espérons, ouais. Alors,
de toute façon, avec Edmond, ça devrait être bien.
Ah bah oui, déjà, au niveau de la traduction, oui.
Edmond Touriol, donc, qui est quand même le traducteur de, rappelons-le, je dis pas de bêtises, c'est bien lui qui fait Walking Dead.
Je crois, oui.
J'espère que je dis pas de bêtises. Bah écoute, de toute façon, il y aura forcément des gens qui me corrigeront au pire.
Et ils ont aussi annoncé une sortie pour le mois d'avril, le 25 avril exactement, un truc qui s'appelle Fairy Quest. Alors je ne connais pas du tout, c'est écrit par Paul Jenkins et au dessin Huberto Ramos.
Ah oui, carrément, d'accord.
Ah oui, donc là, c'est quand même du... Alors, je sais pas, c'est un format 50 pages, j'ai l'impression que c'est un format très franco-belge, mais ce sont des auteurs américains. Alors, je ne connaissais pas du tout cette série.
C'est sûr que c'est pas un sketchbook?
Ah non, c'est un truc
qui... Ah bah non, oui, il y a un scénariste.
Qui est... oui, qui est en 4 volumes apparemment. C'est prévu en 4 volumes. Alors je ne connais pas du tout, Paul Jenkins, Humberto Ramos, quand même des gros noms. Je te sens encore mort de rire. Ok, donc on souhaite bonne chance à Glénat Comics. Hein.
Oui, quand même. Ouais.
Encore un nouveau dans le milieu du comics et c'est un petit peu le problème que l'on a ce mois-ci. Et là, les choses ne vont pas s'arranger dans les prochains mois. Alors, c'est un gros avantage pour nous, mais aussi un gros défaut, c'est que on croule sous les parutions.
Il y a Atlantique aussi qui revient.
Ouais.
Puisque Atlantique avait fait un démarrage vraiment raté.
Ouais, deux épisodes 15€, faut peut-être pas se foutre de la gueule des gens trop longtemps.
Justement,
quoi.
Maintenant, ils reviennent en rééditant les trucs avec un nombre de pages bien plus intéressant à un prix. Je crois que c'est le meilleur prix d'ailleurs sur le nombre de pages. On en a déjà parlé, non, peut-être.
Ah non, je ne pense pas, non.
D'accord, Morning Glories va ressortir à raison de 5 ou 6 épisodes dans un volume. Et
rare, quoi.
À un prix autour de 12-13€, et je crois que c'est le moins cher par rapport au nombre de pages proposées actuellement sur le marché.
Est-ce que c'est pas se foutre de la gueule des gens qui ont acheté le premier tome?
Alors, il paraît que apparemment il y a eu un gros problème avec l'imprimeur qui n'a pas du tout imprimé les bons fichiers et voilà.
Oui, mais enfin, à ce moment-là, on le sort pas, quoi. Je suis désolé, on le sort pas parce que là, ça vient
Non,
six mois
mais
plus tard.
c'est très bizarre, c'est très bizarre,
Alors,
je
je veux bien croire à une erreur, je veux bien croire, mais ça voudrait dire quand même que c'est parti directement de l'imprimeur au réseau de presse et qu'ils n'ont pas reçu leur bouquin.
apparemment, ils ont eu tous les soucis possibles. Écoute, il y a une
Oui, enfin, ils ont eu
interview
tous les
très
soucis
intéressante. Attends,
possibles.
il y a une interview très intéressante de Fabrice Sapolsky, donc l'éditeur de ce label, enfin le directeur de ce label, fait par nos comparses de One-Eyed Pied, c'est comme ça qu'on les
Le
appelle.
One Eye Club, oui.
Le One Eye Club, oui, ce sera plus simple. Voilà, qui, bon, font un podcast sur la BD en général. Ils sont partis à Angoulême.
Oui, mais moi j'ai vu le stand d'Atlantique à Angoulême. Les bouquins étaient en vente. Donc s'il y avait une erreur d'imprimerie, on les vend pas. Voilà. Donc moi, pour moi, ce double discours me fait un petit peu sourire.
Eh ben écoute, tu te feras ton avis, mais en tout cas, ils ont interviewé Fabrice Sapolsky dans l'une de leurs nombreuses interviews qu'ils ont fait à Angoulême. Et bah c'était intéressant, je l'ai écouté, ça dure un petit quart d'heure, donc voilà.
J'irai écouter ça. Non, mais moi, je veux bien croire au problème. Il y a pas, il y a, enfin voilà, je mets pas en doute la véracité des propos. C'est juste que il y a, pour moi, un double discours qui est pas très honnête vis-à-vis du client. C'est-à-dire que le fait de croire que ce serait parti directement au réseau de distribution,
Bah, c'est sûr, oui, enfin c'est
non.
sûr que ça gueule sur les forums, ceux qui l'ont acheté s'en plaignent, aimeraient que
Mais
ce soit échangé,
ben
racheté, enfin.
oui, mais c'est quand même le minimum, quoi. 15 € deux épisodes. Déjà, on n'est pas dans le Froc en Belge, on est dans le comics, donc il faut quand même aussi remettre les choses telles qu'elles sont. Et puis merde, quoi. Je veux dire, c'est pas,
Bon, en
pour moi,
même temps.
ça me paraît inconcevable qu'il n'ait pas reçu le bouquin avant que le bouquin soit distribué. Et quand bien même il serait parti directement dans le réseau, tout de suite on fait un rappel et on n'attend pas 6 mois pour dire aux gens, non, en fait, c'était une erreur. Non, c'est simplement qu'on s'est rendu compte que la com était pourrie, que plus personne ne voulait entendre parler de cette maison, qu'on se dit, ah bah en fait c'était peut-être une erreur, faut qu'on trouve un truc. Moi c'est comme ça que je le vois.
Oui,
Je
bah,
peux me tromper, j'espère que je me trompe, mais...
je pense que beaucoup n'en pensent pas moins. Mais
Voilà, bah, tant pis, Comic City va dire tout haut ce que les gens pensent tout bas.
peut-être.
Non,
Mais
voilà, bon,
en tout cas, ils ont revu et corrigé leur copie. Donc voilà, une news supplémentaire parce qu'on n'en a pas parlé du coup, comme tu le dis.
Non, mais c'est tant mieux pour eux. Maintenant, ça arrive peut-être un peu trop tard.
Et
6 mois trop tard.
oui, et puis
Enfin,
effectivement,
5 mois
enfin.
trop tard. On va dire le premier mois, on peut faire, voilà.
Moi, de toute façon, quand j'ai vu les trucs, je les ai pas achetés. C'est simple.
Qui, enfin, faut vraiment vouloir une série pour acheter ça, quoi. Voilà,
Et puis en
parce
plus,
que...
il paraît que la traduction aussi était pas la bonne.
J'ai entendu dire aussi que la traduction était pas top. Bon, là, je peux pas me prononcer, n'ayant pas vu le truc, n'ayant pas lu, quoi. Donc, je peux pas trop.
Apparemment, c'était pas non plus les bons PDF, les bons fichiers. Enfin, je sais pas. Enfin, il
Ouh.
y a
On peut en inventer beaucoup des excuses comme ça, putain. Et vous avez pas reçu le podcast à temps, mais c'est parce que j'avais pas les bons fichiers pour faire le montage.
Oh, ça arrive souvent.
Bon. Ça, c'est moi qui fais le montage, donc j'ai le bon fichier. C'est juste qu'il y a du retard, mais voilà, je le dis quand il y a du retard, quoi. Faut aussi être honnête. Surtout qu'en plus, quand là, il y a de l'argent en jeu, nous, c'est gratos, quoi.
Bon?
Oui. Enfin bref, bon. Bah après tout ça, donc comme je disais, oui, l'avalanche de titres qui nous tombe dessus en ce moment. Alors en plus, ça tombe sur le mois de février, qui est quand même le mois le plus court. Donc pour lire, pour nous, ça n'a pas été très facile.
Oui, et puis il y a des trucs qui sortaient totalement en dernière partie,
Bah,
comme
les Urban, hein, qui sont
Urban,
sortis
ouais.
24. Voilà. Bon bref, là c'est vrai qu'on a une avalanche de titres. Alors ok, c'était Angoulême. C'est vrai que Panini est coutumier du fait de nous balancer un maximum de titres en février, puisqu'il y a Angoulême juste avant. Donc vraiment des cartons. Alors entre le Delcourt, le Urban et le Panini, ouf, alors là on a le choix. C'est vrai que ça devient limite un problème parce que bien sûr la bourse ne peut pas forcément suivre, donc il faut faire un peu plus de choix. Mais malgré tout c'est une bonne chose car plus on a de choix, mieux c'est quoi.
Mieux on vit.
Oui non mais enfin c'est clairement mieux quoi d'avoir autant de possibilités quoi. Tu veux un truc, bah il y a des chances qu'avec tout ce titre-là tu arrives à trouver quelque chose qui te plaise même si tu es très sélectif. Donc bon, c'est une bonne chose. Bon, par contre, c'est vrai que on peut pas tout lire, donc on pourra pas traiter toutes les parutions du mois, bien
Ah
évidemment.
bah maintenant c'est fini, hein. Maintenant il va falloir faire des choix, ma bonne Lucette.
Alors bon, pour le mois de mars,
Lucette d'ailleurs.
il y a déjà moins de sorties Panini, mais bon, voilà. C'est vrai que ce mois-ci, on n'a pas parlé de Milady, on n'en parlera pas parce que ce qui est sorti ne nous intéressait tout simplement pas.
Je crois qu'il n'y avait qu'un titre d'ailleurs.
Oui, Captain Swing, les pirates électriques, un truc dans le genre. Bon, ça nous intéressait pas plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais bon, voilà, on a déjà tellement à faire avec Panini, Urban et Delcourt que ça est difficilement. On va s'attaquer tout de suite à Panini d'ailleurs. Le programme de Panini de ce mois-ci, enfin une partie du programme, eh bien c'est le dernier Marvel Universe, le Marvel Universe 31, avec la fin de Chaos War. Dans deux mois, c'est un reboot. On repart au numéro 1 avec Thanos Imperative. On repartira donc dans une saga beaucoup plus cosmique. Là, effectivement, c'est une saga plus... C'est pas qu'elle est pas cosmique, mais c'est pas cosmique au sens à l'autre bout de l'univers avec Nova et les gardiens de la galaxie, quoi.
C'est une saga plus terre à terre, voire sous terre. Enfin.
Ouais, enfin disons que c'est vraiment un truc avec des dieux, quoi. Alors dans ce numéro, on a les derniers épisodes Chaos War 4 et 5, et on a la mini-série Chaos War Dead Avengers 1 à 3. Alors, je vais commencer par celle-ci d'ailleurs, la mini-série. Fred Van Lanty au scénario, Tom Grummett au dessin, Corey Hamsher, pardon, à l'ancrage. Alors, dans cette mini-série, on a 5, je vais les citer, on a Captain Marvel, on a Yellow Jacket numéro 2, donc la femme qui était sous costume de Yellow Jacket, on a Deathcry, on a Swordsman, Dr. Druid et Vision, qui reviennent à la vie, hein, puisque avec Chaos War, les enfers ont été ouverts, donc beaucoup de gens sont un petit peu revenus à la vie, comme on avait vu avec le cas avec Alpha Flight, avec plein d'autres mondes. Hein. On a tous ces personnages qui sont donc ressuscités, mais enfin... Ressuscité, oui et non. C'est-à-dire que, alors déjà, honnêtement, cette série fera plaisir aux très très vieux lecteurs d'Avengers, puisque on a un petit peu toutes les périodes du volume 1 d'Avengers, donc ça remonte à très longtemps. Qui se rappelle encore de Deathcry, par exemple.
Ah ben moi je m'en rappelle, c'était une nana avec des griffes.
Oui, qui était une Shi'ar, tout simplement.
Une espèce de coiffure à la Wolverine. Mm-hmm.
Voilà, mais enfin, c'est des personnages qui aujourd'hui ont totalement disparu. Swordsman, pareil, est mort depuis maintenant un petit moment.
Ah, on l'avait revu dans les Thunderbolts. Oui. Rappelle-toi. Il y avait même sa sœur, je crois. Ou sa fille. Sa sœur.
Oui, mais est-ce que c'était bien le même nom? Je crois pas que ce soit le Swordsman des origines.
Oh, je sais plus. Ah, peut-être pas. Mais en tout cas, bon, ça avait rien.
Enfin, c'est pareil, enfin, le Docteur Druid qui était mort depuis maintenant 10 ans.
Alors là, par contre, là, je trouve pas de...
Alors, on voyait son fils récemment dans Secret Avengers, par exemple. Bref, donc ces gens-là, ces Avengers-là qui sont revenus à la vie, vont devoir protéger les corps des Avengers qui sont dans le coma, puisque tout le monde est tombé dans un espèce de coma dans lequel il n'y a plus de rêve, finalement, suite à la mort de Nightmare, dans l'épisode 1 de Chaos War, après tout. Il y a de ça maintenant en 4 mois. donc du coup, ils vont essayer de protéger les corps des Avengers, face aux hordes du Chaos King, hein, de Mikaboshi. Et surtout, les hordes de Mikaboshi, dans cette mini-série, sont menées par Grim Reaper, donc le moissonneur en français, le frère de Wonder Man. Voilà, je croyais que j'allais pu retrouver.
Pourquoi ils l'ont pas appelé le faucheur, d'ailleurs?
Il s'appelait le moissonneur à l'époque.
Ah, d'accord. Oui, d'accord, oui, non, bien sûr.
Mais oui, ils auraient pu l'appeler peut-être le faucheur, mais enfin, moi, ce que je me rappelle des vieux épisodes d'Avengers West Coast, que je lisais en français.
C'était le moissonneur.
Et Nekra. Donc, c'est sympa, ça fait appel pas mal au passé, ça révolutionnera pas le genre, c'est pas une histoire qui restera dans les annales, mais c'est sympathique de revoir ces personnages-là, qui finalement, n'ont pas eu de place vraiment prépondérante depuis très longtemps. Et même à l'époque, ils en avaient pas forcément une très grande non plus. Et puis on a la fin de Chaos War, les épisodes 4 et 5, où c'est le dernier combat, le grand combat final entre Hercule, qui est devenu le dieu des dieux, et puis Chaos King. Alors, comment l'histoire va se résoudre? Bien sûr, ça va se résoudre. En tout cas, le Chaos King va être défait, si on peut dire ça.
Oui.
Puisque le monde continue de tourner, donc forcément. Mais comment, pourquoi, par qui, quelles seront les pertes aussi. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Chaos King restera une bonne mini-série. Le problème restera quand même les dessins de Coy Pam qui sont très moches. Parce que oui, c'est vrai que j'ai pas dit... Pour Chaos War, c'est Greg Pak et Fred Van Lanty en tandem au niveau du scénario, Coy Pam au dessin et Tom Palmer à l'ancrage. Alors le pauvre Tom Palmer, il fait ce qu'il peut. Mais enfin, Coy Pam, c'est Coy Pam, quoi.
Ouais.
Ça n'a pas changé. Donc non, moi, une bonne mini-série qui, certes, ne plaît pas à tout le monde, apparemment, vu les réactions que j'ai pu voir par-ci, par-là, sur le Facebook de Panini. Il y a beaucoup de gens qui disent, justement, ce sera l'occasion pour moi d'arrêter le Marvel Universe, parce que ça me plaît pas du tout.
Oh, enfin, en même temps, c'est une parenthèse, quoi.
Oui, c'est un peu dommage parce que finalement,
ça n'a rien à voir avec
sur autre chose de vraiment cosmique. Thanos Imperative est vraiment très sympa. Donc,
oui, puis on retrouve les équipes habituelles et puis il y a les personnages habituels.
Oui, voilà. Donc c'était une parenthèse. Il fallait bien le publier quelque part parce que c'était quand même une bonne histoire. Ça permettait de mettre fin aussi au cycle d'Hercule tel que l'on le connaît. Donc Voilà, il y a Pâques et Vanlanti vont utiliser pas mal d'intrigues qu'ils avaient placées déjà et dont on était déjà au courant en français. Hein. Ce sont des choses qu'on a déjà eues, même si tout Hercule n'a pas été publié. Donc ils vont boucler la boucle, ils vont terminer leurs intrigues par-ci par-là, donc c'est pas plus mal. Enfin, moi je trouve que c'est très sympa, et je continuerai à dire que c'est dommage que cet event n'ait pas été poussé vraiment tel que Fear Itself l'a été. On aurait dû inverser les deux, quoi. Fear Itself est un petit événement qui ne sert à rien, dans ce, touchant un petit nombre de séries, et Chaos War étant le gros event. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Donc voilà, quand même un très bon numéro de Marvel Universe. Bon, si vous n'avez pas aimé les anciens Chaos War, bah, vous n'aimerez pas celui-ci, hein, honnêtement. Faut pas se leurrer. On va passer à la suite. Nous avions le X-Men Universe hors série numéro 1. Donc encore une nouvelle revue X-Men. D'ailleurs, à ce sujet, on a beaucoup de X-Men, hein, ce mois-ci, franchement. Qui aime les X-Men sera très content, puisqu'on a quand même le X-Men Universe et le X-Men mensuel classique. On a le Wolverine, bien sûr. Mais on a aussi, donc comme je disais, le X-Men hors série, X-Men Universe hors série numéro 1. On a aussi un X-Men Extra, et on a aussi un X-Men Select, qui est aussi un nouveau magazine, qui sortira tous les 3 mois.
Ok, donc c'est
Avec des
l'effet
sagas
flash
complètes.
forward du coup.
Voilà. Bon, là, on va s'intéresser au X-Men Universe hors série numéro 1, qui est très très bon, puisque ce sont 5 épisodes de X-Factor.
Ah, en one shot, et ça fait plaisir parce que pendant quelques mois nous n'avions plus X-Factor dans
Et oui,
Astonishing
puisqu'il devait
X-Men.
arrêter même de le publier. Donc là, finalement, la perte des droits d'essai aura servi à quelque chose, c'est-à-dire qu'on aura X-Factor. Donc, épisode 215 à 219, Peter David au scénario pour tous. On a Valentine Delandro et Pat Davidson pour la partie graphique du 215, et ensuite on change d'équipe, et ce sera l'équipe régulière dorénavant sur la série. C'est Emanuela Lupacchino qui sera au dessin et Guillermo Ortego à l'ancrage.
D'accord.
Alors, le 215 est un petit one-shot,
Ouais.
une histoire de vampire. D'ailleurs, on se moque, hein, relativement
Non,
bien
du trip avec les vampires.
du trip avec les vampires, c'est assez drôle. C'est toujours l'humour grinçant, la Peter David, qui se moque des autres séries et des choses que nous-mêmes on trouve ridicules dans l'univers Marvel. C'est toujours ça, toujours très très drôle.
Oui, il se moque souvent des trucs, enfin des décisions éditoriales. D'ailleurs, on peut même se demander si finalement l'histoire du bébé de Madrox, c'est pas aussi un petit tacle à tous ces bébés qui disparaissent mystérieusement pour pas que les héros vieillissent, enfin tu vois.
Bien sûr, mais avec Peter David, je crois que rien n'est laissé au hasard, surtout. Bon, cet épisode est sympathique, et il sert surtout à faire avancer la relation entre Madrox et Leila Miller. C'était surtout ça le but de l'histoire, parce que l'histoire en est même avec le vampire.
La Miller qui a bien grandi.
Et puis ensuite, on a l'épisode de 216 à 219 qui forme un seul et même arc, où là, X-Factor va être engagé par J. Jonah Jameson pour retrouver le meurtrier d'un de ses anciens amis, qui est devenu depuis un général, qui lui avait sauvé la vie dans un conflit. Et bien sûr, cette histoire va s'avérer beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord, et soulever toute une espèce de conspiration avec des soldats qui ont été modifiés, des expériences faites sur eux, où ils n'étaient pas forcément conscients des expériences qu'on leur fait, et enfin voilà. Moi, j'ai adoré cet arc.
Ouais, c'est super drôle, c'est frais, c'est fun, ça se lit vraiment d'une traite.
Voilà quoi, le paradoxe de Jameson qui vient demander de l'aide à des super-héros. Bien sûr, qui dit Jameson dit un passage forcément de Spider-Man où il se fait lyncher, honnêtement. Peter David le traite très mal.
Oui,
Enfin, le fait être maltraité par ses protagonistes principaux. Voilà, moi j'ai trouvé ça excellent. Bon, après, il y aura du développement aussi de personnages, bien évidemment, puisque pour certains personnages, les choses vont changer.
Oui, bah oui, comme souvent d'ailleurs. Le statu quo est bouleversé. Et en tout cas, après une centaine d'épisodes maintenant, je pense, à force, puisqu'on a eu un reboot aussi, donc je sais pas c'est
Oh
difficile
non,
de
pas
compter.
encore, pas encore, puisque on en est au. Ah, on remarque qu'il en approche, hein, parce qu'il a pris
Ah
la série au
oui.
numéro 1. Ça a été jusqu'au numéro 50 avant de reprendre sa numérotation au numéro 200, donc on est dans les 70 là pendant.
D'accord, ok. Enfin ouais, enfin ça fait déjà un bon nombre de mois qu'il y ait, d'années même, et c'est toujours aussi bon.
Oui, il perd pas la main, on s'ennuie pas une seconde, c'est toujours aussi super intéressant, les personnages sont très
Ouais,
bons.
c'est toujours aussi super intéressant.
Écoute, là, je commence à être HS. Ce qui est bizarre, c'est que sachant que c'est le début de
Qu'est-ce que
l'émission,
tu
mais
fumes déjà, Steve?
des clopes,
Oui, mais qu'est-ce que tu mets dedans?
du tabac.
Oui, d'accord.
Ah non, moi je ne fume jamais,
D'accord.
jamais. C'est bien simple.
pour les gens qui ne comprendraient pas, quand tu dis que tu ne fumes pas, c'est tu ne fumes pas autre chose que du tabac.
Bien sûr. Moi, je pense que c'était assez clair. bah oui, un X-Men Universe. Alors, il y avait deux petits backups qui venaient de X-Men To Serve and Protect, qui était une mini-série en quatre épisodes avec que des petites scénettes et une histoire principale. Deux backups totalement pourris. Un backup sur Blink, et puis un autre sur Gambit et L4 en tandem, et c'est à chier.
Oui, ouais, c'est pas très intéressant.
Surtout celui sur Gambit et L4.
Oui, bah je crois même que je les ai zappés, je les ai juste regardés comme ça. Je voyais pas trop ce que ça venait faire là.
Un X-Men Universe très très bon, 5,70€ pour 5 épisodes d'X-Factor.
Mais encore une fois, un arc, on va dire.
Ouais. Non mais c'est bien ces publications en arc.
Oui, oui, c'est pratique. Franchement, on a un maximum de lectures pour vraiment pas cher.
Puis ça permet de sélectionner les publications que l'on a envie de lire aussi. On va passer donc très rapidement au X-Men Select, hein, puisqu'on est sur les X-Men. Alors dedans, il y avait deux mini-séries Fear Itself.
Alors ça, j'ai pas lu.
C'est un numéro spécial Fear Itself. La mini-série Fear Itself Uncanny X-Force, qui est en trois parties, et la mini-série Fear Itself Wolverine, qui est aussi en trois parties. Donc 5,70€ pour 128 pages. Bon, je n'ai pas lu la série, la mini-série Uncanny X-Force, qui est écrite par Rob Williams et dessinée par Simone Bianchi. Honnêtement, sa réputation l'a précédé. Hein. Je n'ai pas eu envie d'aller parce que j'ai vu les critiques le descendre. Donc, j'ai pas voulu m'y risquer, honnêtement. D'accord. J'ai lu celle sur Wolverine. Mmh. Mouais. Mouais. Franchement, c'est tout juste bof, quoi. C'est bon, écrit par Seth Peck et dessiné par Roland Boschi.
Ok, et donc c'est vraiment pas le titre à
acheter.
En
fait, Wolverine va se retrouver face à des espèces de terroristes qui vont profiter de la confusion de Fear Itself. Voilà.
Ok.
Non, franchement, enfin, c'est franchement pas très bon, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Donc, c'est totalement dispensable. Totalement dispensable. Pour moi, très mauvais démarrage de ce nouveau magazine. Hein. Encore heureux que c'est trimestriel, mais... espérons que les prochaines mini-séries qui seront mises là-dedans seront quand même d'un meilleur tenant, parce que là, ça vaut pas le coup. Hein. Gardez vos 5,70€, dépensez-les ailleurs. Mmh. Oui. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Toujours pareil. Notez, pendant qu'on est sur Fear Itself, on a aussi un magazine, parce que c'est aussi le mois Fear Itself, en plus d'être du mois X-Men, hein, on a un magazine Fear Itself hors série numéro 1, avec des one-shots de Fear Itself, hein, Black Widow, Monkey King... il y avait le Fear Itself Fantastic Four aussi, enfin FF, pardon, et puis quelques bouts de Fear Itself Homefront, notamment le passage sur les New Warriors, et on a un Monster Fear Itself aussi qui sort ce mois-ci, hein, comme on a eu des Monsters Secret Invasion, Monster... c'était quoi avant déjà?
Monster Dark Reign.
Pardon, les Monster Dark Reign. Avec donc là des mini-séries qui sont un petit peu à côté, des épisodes de séries régulières qui sont à In a Fear Itself. Donc on a la mini-série The Deep qui est plutôt sur Namor, la mini-série Fearsome Four, Heroes for Hire 9 à 11, un one-shot sur Dracula et un bout de Fear Itself Homefront numéro 3.
D'accord.
Bah si vous aimez Fear Itself et que vous vraiment voulez voir tout ce qui a touché Fear Itself, ouais, moi je pense que c'est totalement dispensable là encore.
Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas grand rapport finalement avec Fear Itself au final.
Ouais, bah 272 pages, 28,40€, c'est un Monster, bah faites votre choix quoi. Bon, après Fear Itself, vous l'avez partout, hein. Vous avez le magazine régulier bien sûr, comme d'habitude, et la plupart des titres qui sont touchés.
Ouais.
On va continuer avec, et on va terminer avec les X-Men, parce que j'ai oublié, le X-Men Extra numéro 88, première partie de Age of X, appelé donc RX en français, avec dans ce X-Men Extra le numéro prologue qui s'appelle Age of X Alpha. On a les épisodes de X-Men Legacy 245-246 et New Mutants 22-23, qui sont donc les deux séries touchées par Age of X. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre comment ils vont faire tenir ça sur trois numéros, puisqu'on a quand même, on va jusqu'à la partie 4 de Age of X.
Ouais.
Là, faut m'expliquer ce qu'il considère les répercussions d'Age of X dans Age of X lui-même.
Je sais pas.
Ouais. Bon. Assez bizarre. Bon, moi je les ai pas relus, honnêtement. J'avais lu ça en VO, j'avais lu le Age of X Alpha, j'avais lu le... Alors, je vais quand même donner un petit peu les crédits, ce serait bien aussi peut-être, pour le Age of X Alpha, ainsi que pour les New Mutants et les X-Men Legacy. Donc on a Mike Carey au scénario, pour la partie X-Men Alpha, on a beaucoup de dessinateurs. Hein. Mirko Pierfederici, j'espère que je le prononce bien. Gabriel Hernandez, Carlo Barberi, Paco Diaz, ouais. Davidson, enfin bon, voilà, beaucoup de monde. Pour ce qui est de X-Men Legacy, bah, comme d'habitude, hein, c'est Mike Carré au scénario avec Clayman au dessin, ancré par Jay Layston. Et pour les New Mutants, c'est Mike Carré qui écrit là aussi, hein, bien sûr, la partie Joe Fix avec le dessin de Steve Kurth et ancré par Alan Martinez.
Donc, ok, voilà. Donc il y a du monde.
J'ai vraiment fait le tour là, j'ai essayé d'être le plus
exhaustif
possible.
Complet, ouais.
Alors moi, les Joe Fix, j'avais lu ça en VO, je n'avais pas accroché du tout, j'avais décroché dès la deuxième partie en fait.
Ok.
J'ai pas eu envie de le relire. Honnêtement, ça m'a franchement déplu. Ça partait d'un bon principe, mais ça m'a fortement déplu.
Bah écoute, moi, j'ai plutôt bien aimé jusqu'à ce qu'on sache en fait qui était responsable de tout ça, et puis à partir de là, je trouve qu'il y a plus trop d'intérêt.
D'accord. Bon, on va préciser un petit peu l'histoire. Hein,
oui, oui. Bah c'est une espèce de Age of Apocalypse, hein, de toute façon.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Ouais, on pourrait vraiment résumer à ça, sans plus de.
Dans un monde où les X-Men finalement n'ont pas existé, voilà.
Ouais. Ou en tout cas, pas tels qu'on les connaît. Et on découvre petit à petit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui est derrière tout ça.
Ouais, puis les versions différentes des personnages, quoi, les versions modifiées, hein, dans cet univers, qui fait partie de ces, finalement, X-Men qui existent quand même. Bon, moi je dis ça partait le premier numéro était sympa et puis dès le deuxième ça m'a j'ai pas accroché, ça m'a saoulé en fait.
Ouais, le problème c'est que c'est surtout un gros what if sans répercussions.
Alors des répercussions on aura quand même quelques-unes,
mais
elles sont très minimes.
Donc, ouais.
À voir si vous êtes tenté. Hein, moi je n'encourage pas la lecture à titre personnel, mais après chacun fait comme il sent. Pour toi, Benny, conseiller ou pas trop?
Éventuellement à checker pour les fans hardcore de X-Men ou alors pour ceux qui ont aimé l'ère d'Apocalypse.
L'univers parallèle, ouais.
Oui, enfin voilà, quoi, pour les amateurs de What If, là c'est vraiment un gros What If qui sera donc en 3 parties par contre.
Comme je dis, je sais pas trop ce qu'ils vont mettre dans les parties 3, puisque déjà dans la partie 2, il reste 2 épisodes pour Age of X.
Ouais.
Allez, on va passer à la suite, le Marvel Saga numéro 13. Alors là je l'ai lu tout seul, donc je vais faire rapidement. Ce sont 3 annuals. Comme à l'époque, un petit peu, des annuals qui formaient un crossover. Là, Marvel avait sorti 3 annuals en 2011. Uncanny X-Men, annual numéro 3. Steve Rogers, Super Soldier, annual numéro 1. Et Namor the First Mutant, annual numéro 1. Alors, j'ai comme des doutes quant à l'annual de Steve Rogers, Super Soldier, parce que, rappelez-vous, Steve Rogers, Super Soldier, c'est une mini-série.
Oui.
J'ai un peu de doute. Le fait de sortir un annual sur une série qui n'existe pas.
Oui.
Finalement. Moi, ça m'énerve un petit peu, mais bon. Ou même donner un annual à une mini-série, je trouve ça un peu ridicule. Bref.
Ouais. Non mais effectivement, c'est bizarre.
Au scénario, on a James Asmus qui s'occupe de tout le scénario, qui fait un travail sympathique. Hein. C'est pas un truc qui m'a, pareil, une fois plus, restera dans l'histoire du comics, malheureusement. Enfin, non, heureusement, ça ne restera pas dans l'histoire du comics, parce que...
Ou malheureusement pour nous, on aimerait bien que ça reste...
Oui, bah oui, on préférerait, mais honnêtement, c'est bof bof, quoi. Il s'en sort quand même bien, il y a de l'humour, c'est rythmé, donc voilà. Par contre, au niveau des dessins, donc pour l'annual d'Uncanny X-Men, c'est Nick Bradshaw au dessin, qu'on retrouvera bientôt sur une série régulière de l'univers X, hein. Je ne dirai pas plus. Ibrahim Robertson pour la partie sur Steve Rogers Super Soldier, et... Vraiment là, malheureusement, Max Humara au dessin de Namor l'annual, et c'est franchement très laid.
Ouais.
Au niveau des proportions, ça colle. Enfin, voilà, les visages sont vraiment difformes. C'est très très moche.
Enfin, je te dis ouais, mais je l'ai pas vu, mais Max Humara, effectivement.
Je pense que tu dois te rappeler des épisodes qui sont Spider-Man. Là non. Là franchement, ça colle pas, quoi. Déjà que ce truc est quand même relativement moyen. Si en plus on connaît un dessinateur pas bon dessus, enfin pas bon. En tout cas, le style ne correspond pas, quoi.
Ouais.
Franchement. Bon, l'histoire est très simple. Les X-Men tentent de construire un pont pour aller dans les limbes assez facilement, une sorte de passage pour aller dans les limbes, sans devoir recourir toujours à Megan ou à
Pixie.
Pixie, voilà. Et je cherche l'autre, la sœur de Colossus, Magic.
Iliana,
voilà.
Oui.
Magic. J'avais Darkchild qui me venait, mais je savais que c'était pas ça. Et malheureusement, l'expérience va pas forcément bien se passer, ça va péter. Et 4 X-Men.
En marque, t'as dit, ils ont pas tous les cartes en main, hein. C'est ça que tu as dit, non?
Ah non.
Ah bon, d'accord, j'ai cru.
Non, je crois pas avoir dit ça.
Alors du coup, en plus, ma vanne tombe à l'eau. Je croyais que tu disais ils avaient pas tous les cartes en main pour aller dans d'autres dimensions, et je te dis, bah oui, il leur faut les cartes magiques.
D'accord, mais oui, mais non, je n'ai pas dit ça.
Mais j'y rêvais. Je commence à entendre des répliques qui n'existent pas. J'ai un coup de barre.
Tu inventes des répliques pour placer des vannes à vous.
Non, non, mais là, j'ai vraiment un gros coup de barre et je lutte pour tout ça.
Précisons que tu as fait une nuit blanche. Encore.
Encore. À chaque fois qu'on enregistre ce putain de Comic City, ça tombe au moment où j'ai fait une nuit blanche. Et heureusement, j'en fais pas non plus super souvent, mais là, c'est très, très, très dur. Là, ça commence à tirer sévère.
Avant que ça fait quand même 3 heures qu'on est dessus. Même plus.
Et là, j'enregistre, si tu veux, la tête reposée sur mon siège et les yeux fermés. Et je t'assure que la tentation est grande.
On me dit souvent plus que j'ai une voix qui berce. Donc,
je lutte pour réfléchir avec cohérence et te.
Avec cohéremment, ça marche pas trop.
Oui, vraiment, oui. Et discuter de tout ça, quoi.
Ouais, je vais faire très vite sur ça. Donc, 4 X-Men sont envoyés, disparaissent suite à cette explosion. Hope, Cyclops, le docteur Nemesis et Namor.
Ouais.
Ils se retrouvent en fait en plein milieu de la zone négative, d'où le nom de l'arc, c'est Escape from Negative Zone. Et moi j'ai la voix qui se barre parce que j'ai la gorge complètement sèche, c'est terrible. Donc, qui est le maître de la zone négative? C'est Blastar, et Blastar voit ça comme une agression et décide de menacer la Terre en disant voilà, c'est une invasion, soit vous faites ce que je vous dis et vous récupérez vos otages, soit j'envahis la Terre, et donc il demande la venue de Reed Richards. Or, celui-ci n'est pas disponible, et c'est Steve Rogers qui va aller chercher les otages tel un bon patriote.
Bien sûr.
Ça pète de partout. Honnêtement, la lecture est quand même relativement agréable. Je vais pas le nier. J'ai passé un bon moment à lire. C'était pas désagréable. Maintenant, est-ce que c'est un truc que je relirai dans 2-3 mois en me disant « Oh, c'était cool, tiens, j'ai envie de le relire ?» Non. Non. Bon, maintenant, au prix où c'est proposé, 5,50 pour un truc qui fait 112 pages, une bonne petite histoire. Voilà. Si vous avez un peu d'argent, si vous n'avez pas acheté X-Men Extra, par exemple, et vous avez quand même envie de lire un petit peu de X-Men. Il y a des choses intéressantes qui sont posées, puisque si je me gourre pas, James Asmus est le scénariste de Generation Hope, donc il maîtrise relativement bien Hope. Il y a des choses intéressantes d'amener. Malheureusement, je vais pas spoiler avec la VO, mais c'est des choses qui me paraissent tomber à l'eau dans très peu de temps.
Ouais.
Donc voilà, bon, à réserver un public qui a envie de quelque chose de sympathique, de fun, parce qu'il y a quand même de l'humour, hein, notamment des grosses vannes entre Hope et Cyclope, et plutôt Hope qui balance des grosses piques à Cyclope, c'est sympa. On va passer à la suite, et il me reste Black Panther.
Oui, Black Panther, la librairie Panini, la seule qu'on fait du coup de librairie chez Panini, je sais plus.
Eh bien, je crois, oui. Oui, parce que il y avait quand même des sorties notables hein, ce mois-ci, mais on n'a pas eu le temps de tout lire. Bon, après en réimpression, on avait par exemple un best-of Marvel Spider-Man 2099 avec les 10 premiers épisodes.
Ouais.
Le petit défaut quand même de ce truc-là, c'est que c'est du matériel américain qui est ressorti, hein, c'est pour ça qu'ils ressortent, mais le tome 2 n'est jamais sorti aux US.
D'accord.
Donc, il y a fort à parier qu'on n'ait jamais de tome 2 en France.
Oui, enfin moi je disais le gros défaut, c'est que aussi ils ont repris je ne sais quelle édition, je sais pas, ça fait, on a l'impression qu'ils ont photocopié du papier vieillot sur du papier glacé, sur nouveau quoi, enfin voilà. Et le résultat est assez bizarre. Mais du reste, c'était une très bonne série.
Oui, bah oui.
De Peter David.
De Peter David, oui, effectivement. On a oublié de le préciser. Après, bon, il y a des choix qui sont dans les réimpressions de ce mois-ci assez bizarre. Bon. Là, on a la sortie du Spider-Man classique dont on n'a pas parlé.
Ouais, exact.
Qui est
très sympa. Bon, alors là, c'est toutes les sagas liées au second bouffon vert, Harry Osborn, enfin toutes les sagas, certains épisodes. Et au fait, il est surtout à prendre pour les deux derniers épisodes qui sont des épisodes doubles.
Ouais, le 189 et le 200. Le Spectacular Spider-Man.
Ouais, scénarisé par J.M. DeMatteis et puis dessiné par Sal Buscema.
Ah oui, alors Sal Buscema, ça a peut-être embuté certains.
Ça a peut-être embuté certains, mais les histoires sont tellement bien. Enfin, franchement, c'est une histoire mythique. Juste pour ces deux histoires, la moitié du mag, ça vaut le coup.
C'est 5,90€. Vous avez aussi le Amazing Spider-Man 136, 137 et 312 dedans.
Oui.
Voilà. C'est du vieux, si vous voulez en savoir un peu plus sur le bouffon vert et Spider-Man.
Non, puis c'est intéressant, ça permet aussi de voir, comme avec le DC Anthologie, à travers les époques, comment ça a évolué tout ça.
On a aussi la réimpression donc des 10 premiers épisodes de Secret Warriors en deluxe.
Oui. Et puis des épisodes de, je crois, de Paul Jenkins sur Spider-Man avec Humberto Ramos, justement.
Je l'ai pas vu passer ça. Ah oui, si, oui,
Si.
pardon, oui, le Marvel Deluxe Spider-Man, le
Ouais,
cauchemar.
c'est ça. Voilà. Et au fait, c'est les épisodes en collaboration entre Humberto Ramos et puis Paul Jenkins. On en a parlé tout à l'heure de ce duo, puisque c'était l'histoire du sketchbook. Et du coup, voilà, bah écoute, c'est des épisodes qui ont rencontré un franc succès critique. Moi, personnellement, j'avais pas trop aimé, mais bon.
Alors, il reste les Best Comics, cette collection à très peu cher qui reprend des sagas.
Bah, moins de 10 euros, quoi.
Ouais, 10 euros, 10 exactement.
Ah oui, parce que, bah oui, forcément, il est.
Sinon, ils étaient à 10 euros avant. Donc, on a une saga sur Thor, la mini-série Blood Oath. On a du Captain America avec les épisodes de la série de 1998, c'est-à-dire le volume 3, 25 à 31.
Ouais.
Et là, on a un truc très drôle, je trouve. On a un Best Comics Avengers, qui date du volume 3, là aussi, qui date de 98. Les épisodes 64 à 70. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont republié cet arc-là. Que l'arc soit bien ou pas, c'est pas le problème. C'est juste que c'est scénarisé par Geoff Johns.
Mais oui.
Alors, est-ce que c'est pas un moyen de, puisqu'ils n'ont plus les droits DC, de quand même, Geoff Johns, qui est le scénariste important chez DC, avoir du DC un petit peu chez Marvel, le peu de temps qu'il a fait,
Bah écoute,
la
moi
mise en
j'avais lu
avant?
ces épisodes après avoir lu Geoff Jones sur Green Lantern au début. Et je peux te dire que j'avais été sacrément déçu. Hein. Je m'étais dit, oula, c'était pas mauvais, quoique, hein, c'était pas terrible, terrible, quoi. Pour du Geoff Jones, ça déçoit.
À noter qu'il faut quand même faire attention si on regarde les parutions fait Panini sur Facebook, ils sont juste plantés sur toutes les pages des Best Comics, puisqu'on a Thor qui ferait 2144 pages, le Captain America qui en ferait 2176 et le Avengers qui en ferait 2160.
Ben oui. Si vous avez moins de pages dans votre édition, faites une réclamation.
Voilà, bon, c'est juste le petit truc comique, quoi, j'imagine. Il y a 6 épisodes, 2144 pages, c'est putain des putains de gros épisodes, quand même.
Ah bah c'est un sacré omnibus, quoi.
Ouais, bon, bah voilà, enfin, moi du Geoff Johns chez Marvel, c'est juste qu'il me fait rire, quoi. Comme par hasard, le mois où DC, enfin Urban Comics sort du DC vraiment.
Bah alors c'est quand même des vieux trucs, hein. C'est avant la reprise des Avengers par
Ah bah
Bendis, ça commence à
oui, c'est
dater.
avant
Bah juste avant.
Disassembled.
Ouais.
Voilà.
C'est les épisodes vraiment juste avant.
Oui, parce que Geoff Johns avait fait un passage d'à peu près un an sur les Avengers. À noter aussi, alors dans les parutions librairies dont on ne va pas parler parce qu'on n'a pas eu le temps, il y a le Astonishing Thor par Robert Oddy et Mike Choi. J'ai lu le premier épisode, j'ai pas eu le temps de dire plus. Je ne peux pas me prononcer. Voilà, c'est le retour d'Ego.
Ah oui. Oui, pas D plus loin Go, c'est
Non, Ego,
la planète
la
vivante.
vivante. Voilà. À noter aussi qu'on a la sortie d'un Punisher Max volume 3, qui ne contient pas la série Punisher Max justement, mais des one shot. 4 one-shot, bon, à réserver à ceux qui aiment le Punisher, mais faites bien attention, ce n'est pas la série Punisher Max.
Ouais, malheureusement, c'est pas encore la suite de Steve Dillon. Oui, si Steve Dillon et puis Jason Aaron, surtout au scénario. J'ai lu la fin, d'ailleurs, j'en ai pas parlé puisque voilà, c'est tombé une semaine où je sais plus. Enfin, je l'ai lu sans doute après. C'est vraiment génial, hein, cette série du début à la fin.
Bon, bah, c'est bon à savoir.
Voilà. Donc un final grandiose. Franchement, c'est le run du Punisher qui restera dans les mémoires, je pense, avec bien sûr Garth Ennis.
Une valeur sûre, bien sûr. À noter aussi pour les fans de l'univers Ultimate dont on parlera tout à l'heure, enfin, on va pas parler de celui-ci justement, mais l'épisode Collector, enfin Collector, le gros épisode Ultimate avec la mort de Spider-Man, la fin de l'arc.
Oui, c'est sorti, ouais.
Voilà. Et puis Scarlett qui arrive en français avec Brian Michael Bendis au scénario, Alex Maliv au dessin. Pas eu le temps de tout lire,
Qui devait
malheureusement.
sortir en digital et finalement Panini a eu du retard avec son offre digitale, je sais pas où ça en est.
Je ne sais pas non plus, je n'ai pas, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de vérifier ce
Ça
mois-ci.
avait été complètement repoussé, ça devait sortir à l'époque d'Angoulême il y a un mois, et puis finalement.
Ouais, je ne sais pas où ça en est, je me suis pas renseigné, honnêtement, je n'ai pas eu vraiment le temps de le faire. Donc voilà, ça c'est toutes les choses dont malheureusement on n'aura pas forcément le temps de parler. Là on va parler du Black Panther. Donc Black Panther, The Man Without Fear, c'est le nom de la série US.
Et oui, puisque Black Panther a remplacé Daredevil dans sa
Voilà, il n'y a
propre
plus la
série.
suite, avec la même numérotation d'ailleurs, hein, puisque ce sont les épisodes 513 à 520.
Alors ça, je déteste quand ils font ça. C'était déjà compliqué avec Incredible Hercule. Et voilà, puis on s'y perd. On s'y perd. Franchement, pour les nouveaux lecteurs, puis même pour les anciens, c'est pas facile, quoi.
C'est 18,30€, c'est 184 pages, il y a quand même 8 épisodes. Honnêtement, moi j'avais franchement rigolé l'annonce de cette série à l'époque, Black Panther, The Man Without Fear, enfin qu'est-ce que vient foutre Black Panther à Hell's Kitchen, pourquoi c'est lui qui remplace Daredevil, ça n'a aucun sens.
Oui, puis surtout une équipe artistique, tu peux citer d'ailleurs,
oui, David Lee au scénario, ouais. Francesco Francavilla au dessin, ouais. Accompagné de Refté Paolo quand c'est pas lui qui dessine.
D'accord, mais David Lee par exemple, moi ça me disait strictement rien, je dois te dire.
Mais c'est un auteur de romans, hein, je crois, ouais. Principalement.
Ouais, enfin,
il avait déjà fait quelques essais comics, mais je me rappelle plus sur quoi.
Enfin voilà, donc il y avait rien qui me donnait tellement envie de lire ça. Et puis,
honnêtement, moi c'est une série que je n'aurais pas été lire si on n'avait pas dû en parler là.
J'ai pas tout lu.
Tu as lu qu'une partie, tu n'as pas eu le temps de la terminer.
Voilà, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu et je vais vite.
Et ben, moi aussi. Ben moi aussi, justement.
Ouais, très très bonne surprise. Un truc vraiment très différent de Daredevil, je trouve.
Oui et non, en fait.
Enfin,
ça reste dans le même esprit, finalement.
Ça reste dans le même esprit, ouais, c'est vrai que c'est assez sombre. Bah d'ailleurs, c'était peut-être ce qui devait remplacer. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont totalement changé le ton de Daredevil. Puisqu'ils avaient, cette série. Mais malheureusement, la série disparaîtra aussi.
La série disparaît. Alors, c'est vrai que partout, j'avais lu sur le net que c'était une des meilleures séries du moment, que c'était vraiment énorme qu'elle s'arrête.
Pourtant, elle n'avait pas l'air de vendre énormément, quoi.
Mais oui, elle vend pas énormément. Mais je veux dire, la série va. Bon, pour les auditeurs français qui ne le savent peut-être pas forcément, la série va encore changer de nom bientôt. Elle s'appellera Black Panther, The Most Dangerous Man Alive.
Donc, alors, c'est sûr
pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, Black Panther, l'homme le plus dangereux du monde.
Oui, enfin, je pense que c'est quand même relativement simple à traduire ce titre.
Il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais. C'est juste ridicule. Moi, je vois ça écrit sur le titre d'une cover, j'ai pas envie de l'acheter.
Ouais.
La preuve, c'est que je m'y intéressais pas du tout à cette série. Et finalement, je le regrette. Je le regrette parce que, vraiment, très très bonne lecture. Moi, j'ai adoré. Là où Marvel a fait une énorme erreur à mon goût, c'est de ne pas avoir vendu ça comme un épilogue à Shadowland. Et là, il y aurait eu beaucoup plus de lectorat potentiel parce que dès le premier épisode, on voit tout de suite si ça va nous plaire ou pas. Mmh. Il y a un ton, il y a une ambiance particulière qui sont mises dès le premier épisode. Et s'ils avaient vendu ça comme un épilogue à Shadowland en mettant un gros bandeau sur la cover Shadowland épilogue, je suis certain que plus de gens auraient été voir.
Oui, parce qu'on retrouve vraiment toute l'atmosphère de Shadowland, mais sans finalement le principal acteur, à savoir Matt Murdock, mais bon.
Mais oui, mais en tout cas, pour le premier épisode, voilà, on comprend. C'est-à-dire que Matt Murdock va lui laisser la place. Il lui dit, on a Matt Murdock qui passe et qui lui dit, écoute, il faut que je m'en aille, machin. Et Black Panther qui est là et qui, en fait, Black Panther, c'est là. Bon, moi, j'ai pas lu Doom War. Je crois que tu l'avais esquivé toi aussi.
Ouais. J'avais esquivé ça. Il paraît que c'était vraiment très 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 mauvais, mais bon.
Mais en fait, cette série Black Panther se passe après Doom War. Et pourquoi Black Panther est à Hell's Kitchen, bah, lui qui est le roi du Wakanda, c'est tout simplement parce que il a abdiqué son trône. Il a laissé tomber les pouvoirs de Black Panther.
Ouais.
Et là, en tant qu'humain, et il en est. Lui aussi, comme Matt Murdock, à se rechercher lui-même.
Mais alors, du coup, il s'est séparé de Tornade aussi, alors?
Non, il est toujours avec elle.
Ah, d'accord.
Il est toujours avec elle, bah, on le voit dans les épisodes où il fait un chat avec elle, enfin,
oui.
Il discute par webcam interposé en lui disant, écoute, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de me retrouver moi-même, de savoir finalement qui je suis, est-ce que sans les pouvoirs du Panthère, est-ce que sans mon argent, le fait que je sois roi, est-ce que je suis toujours le même ou est-ce que je suis quelqu'un d'autre et j'ai besoin de savoir qui je suis.
Oh, ouais, putain, c'est vraiment des paroles de Pascal Obispo.
Oui, ben moi je simplifie. Mais,
non, mais je plaisante. Mais,
mais c'est vraiment bien écrit. Il y a un côté très street level character, à un point où même où ça en est peut-être un peu trop, puisque pour ceux qui ont vu les covers des derniers Black Panther, Most Dangerous Man Alive, de même que les variantes de cover du premier numéro, c'est Batman que l'on voit là. C'est plus Black Panther, c'est Batman. Le design déjà avec les petites oreilles et tout.
Mais et au début il avait été créé un petit peu comme ça. Hein,
bien sûr, c'était le Batman Black.
Voilà, c'est ça, ouais, le Batman Black, ouais.
Mais là, clairement, c'est un Batman.
Bah, la première apparition, enfin, voilà, tu vois Batman, quoi.
Bien sûr. Alors, là, on a deux histoires. On a un premier arc de 6 épisodes, puis sur un deuxième de 2. Dans le premier arc, donc, il va s'installer à Hell's Kitchen. Il va prendre une nouvelle identité civile, pour pas qu'on le reconnaisse. Devenir le patron d'un restaurant. Essayer de se mélanger à la population, de prendre ses marques. Et il va tomber face à un nouvel ennemi, qui... justement, suite à Shadowland et à la disparition de pas mal de forces en présence, va en profiter pour mettre la main sur Hell's Kitchen. Ce nouvel ennemi s'appelle Vlad... Alors, je l'ai noté quelque part.
Vlad Tapas.
Vlad Dipou. Vlad Dinou, pardon.
Vlad Dinou, comment tu vas?
Qui se fait appeler l'emballeur, bien sûr. Vlad l'emballeur, hein. Puisqu'il est roumain. Et lui aussi a des pouvoirs. Et voilà, c'est la mafia roumaine qui essaye de s'imposer à Hell's Kitchen. Malheureusement pour eux, ils vont tomber sur le Panthère, et en même temps, malheureusement pour le Panthère, il va tomber sur eux. Lui aussi. Donc voilà, je ne vais pas en révéler plus sur l'histoire, c'est vraiment prenant. Bah, même si tu n'as pas tout lu, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Benny?
Ben, moi, franchement, très très bonne surprise. Très très bonne surprise, bonne ambiance, enfin bonne ambiance. Ambiance assez oppressante, assez glauque, assez assez noire.
En même temps, c'est ce qu'on attend.
Mais oui, ben voilà. Non, franchement, c'est comme tu dis, la suite, l'épilogue à merde, comment ça s'appelle, Shadowland. Et puis tant mieux. C'est vraiment un bon titre. Dommage même maintenant de savoir que ça va s'arrêter.
Ouais. Le deuxième arc, il va se retrouver. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais il va se retrouver opposé à Kraven. Donc Kraven face encore à un ennemi, enfin en tout cas un héros à tendance animale. Voilà, c'est honnêtement, hein, quand j'ai vu que c'était Kraven, je me suis dit oh là là, pff, le Kraven face à une panthère machin. Et finalement c'est bien écrit, David Lys a vraiment bien le personnage en main. Non, vraiment très très bonne lecture, une très très bonne surprise ce mois-ci. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais franchement à une merde.
Ouais, ben tout pareil, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute?
Donc non, mais enfin moi pour moi voilà, un tome de librairie à prendre.
Ah ouais. Alors un peu cher, même si c'est du souple, parce que cet épisode.
Ouais, 8.
8 même. Ouais. Ouh là là.
18-30, c'est un peu plus cher, mais il y a 8 épisodes. Quoi,
ouais. Donc un bon gros pavé, quand même, un bon gros moment de lecture.
Bah on aura deux tomes comme ça sur Black Panther, puisque la série doit s'arrêter au 529, je crois. À moins qu'ils nous coupent ça encore en deux. Mais je pense pas. C'est quand même un personnage qui fait relativement pas vendre Black Panther, faut être honnête. Quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y étais pas intéressé au départ. Moi, Black Panther, je m'en fous.
Ouais, ben, c'est sûr que, enfin, moi, c'est vraiment pas le personnage que j'ai suivi. Hormis le fait qu'il se soit marié avec Tornade ces dernières années, je ne connais rien de lui. Donc,
Et du coup, là, on a toutes les réponses que l'on cherchait à l'époque quand on a
suivi. Il est surtout vachement plus intéressant. Ouais. Non, mais il est surtout vachement plus intéressant là, maintenant, quoi.
Ah oui, bah là, écrit comme ça. Alors, c'est vrai que certains qui aimaient Black Panther tel qu'il était en tant que roi du Wakanda, etc., vont pas retrouver le Black Panther qu'ils connaissaient. Ça va peut-être les perturber. Moi, en tout cas, je préfère le Black Panther comme ça.
Oui, pareil.
Et pour notre dernier review de notre blog Panini, nous allons accueillir un invité très spécial, un guest star parmi les guest stars, Julien Huguenin-Bert.
Salut tout le monde, c'est encore moi.
Ça va bien, Julien?
Bah, écoute, pas mal, merci. Et vous?
Ouais, ça peut aller.
Par contre, Benny, je suis pas du tout d'accord avec tout ce que t'as dit précédemment, là.
Oui, bah, c'est pas grave. On va se contenter de ça, et puis... Et puis voilà, de toute façon, moi, je suis sûr que je serais pas non plus d'accord avec ce que tu vas nous dire, donc comme ça, c'est parfait.
Oui, mais enfin, quand tu parles de maniérisme latent au sujet du dessin de McNiven...
Ah non, ça, c'est pas moi, ça, c'est Jean-Loup.
Ah, exact. C'est un big up à Jean-Loup.
Très bien. Donc Julien, tu nous as rejoint pour la dernière review Panini avant d'attaquer un sujet qui te tenait à cœur, le sujet Urban Comics,
oui,
dont nous allons parler juste après. La review que tu nous as proposée, c'est voilà, je n'ai plus le titre en tête, donc comme ça, je vais te laisser l'annoncer toi-même parce que je m'y perds un petit peu. Je sais que c'est du Ultimate.
Ouais. Bon, pour faire simple, donc c'est la revue Ultimate Avengers, le hors-série numéro 4 qui est consacré au... Bah non, pas aux Vengeurs, mais aux X-Men. Voilà,
c'est ça. Voilà, tu comprends pourquoi c'était pas très simple.
Ouais.
Pourquoi je m'y suis perdu.
C'est la mini-série Ultimate X. Donc, c'est écrit par Jeff Loeb, c'est dessiné par Arthur Adams, c'est ancré par Mark Roslan, et avec des...
On s'en fout des ancreurs.
Ouais, non, mais les ancreurs...
On les nomme pas d'habitude.
Bah, surtout que là, en plus de ça, il a pas fait un travail exceptionnel à la fin. Bon, je suppose qu'il a pas eu énormément de temps pour terminer les pages d'Arthur Adams. Mais non, il a fait bon, ça va quand même. Il a fait du plutôt bon boulot, même si c'est vrai que les encreurs sont juste des mecs qui repassent les traits.
Ben voilà, exactement.
Ça fait moins mal quand c'est dit par quelqu'un qui est du milieu.
Ouais, je suis juste au milieu.
Nous ne relèverons pas cette cette vanne à tendance, on va dire, dérapante.
N'est-ce pas?
tu l'avais lu toi aussi, hein, Benny, à l'époque de la...
Oui, alors moi j'avais lu cette série en VO, du coup il y avait eu énormément de retard, les numéros étaient sortis espacés de 6 mois par moment, donc voilà, j'en garde un souvenir J'avais plutôt bien aimé, hein, cela dit. J'avais plutôt bien aimé cette mini-série, mais disons que j'en garde un souvenir assez assez compliqué parce que je me souviens pas exactement de toutes les parties, quoi.
Bah, en fait, c'est vrai qu'on sent bien, surtout en le lisant d'une traite, parce que donc Panini propose la mini-série en complet en un seul volume.
Bon, alors ça, on ne cessera jamais de le dire. Par contre, c'est vachement bien.
C'est super. Non, mais ça, c'est un trade paperback pour 5,70. Ouais. C'est vraiment chouette, quoi. Même s'ils ont devancé la hausse de la TVA dans leur prix, mais ça, c'est un autre problème.
Et oui, moi aussi, je ne cesserai jamais de le dire.
C'est vraiment chouette. Le format, moi, me plaît. Et puis, je sais que les Américains, ils nous envient ce format-là. Bon, un peu moins depuis qu'il y a les trade paperback, mais quand même. Que ce soit en kiosque comme ceci.
Bon, à ceci près que c'est en français, donc du coup, ils nous envient le format, mais pas la traduction.
Ouais,
voilà, ça sert à rien de faire ça, mais j'avais envie de le dire.
Oui, ça dépend qui fait la traduction, disons.
La traduction, bah alors là, c'est Sophie Vatine-Vievard qui nous a écrit quand même que il faut se tenir les coudes.
Et se serrer les couilles et les. Oui. Voilà.
Tenez-vous les coudes.
C'est bien connu. C'est une expression bien connue, quelque part en France, je pense.
Ouais,
qui dit ça et à quelle occasion? C'est marrant de le savoir.
Je sais plus, je crois que c'est Jean Grey, enfin Jean Grey, pas tout à fait, mais enfin bon, je vais pas trop en dire qui là-dedans, parce qu'en fait, le petit jeu de cette mini-série, pour raconter l'histoire en deux, trois mots, c'est que suite à un méga event déjà scénarisé par Jeff Lubb, les mutants sont tous morts, Magneto a, en tant que gros terroriste, a créé un événement global qui a fait que les X-Men sont pour la plupart morts, les mutants sont hors la loi et ils sont traqués, ils se cachent, etc. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas lu le
Ultimatum.
Ultimatum, voilà. Mm-hmm. Donc là, le petit jeu, en fait, c'est qu'il y a un personnage qui est en train petit à petit de recréer non pas une équipe de X-Men, mais en tout cas de réunir les mutants derrière eux, derrière cette personne-là, derrière elle, en fait. Mm-hmm. Et c'est une certaine Karen. Et on retrouve un petit peu l'esprit des X-Men, un peu des débuts, ou, enfin peut-être pas tout à fait des débuts, où Xavier va de porte en porte pour sonner à la porte en disant « Bonjour, je sais que vous avez un mutant chez vous, je suis là pour l'éduquer, pour le récupérer, etc. »
L'image de Xavier qui arrive sur sa chaise et qui dit « Bonjour, je sais que vous avez un mutant chez vous. Ouais. » Je sais pas pourquoi, mais ça me fait marrer quand même.
« Bonjour
!» Mais ouais, ça.
Le calendrier de l'école Westchester.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'était comme ça. C'est bon, oui, c'était comme ça, quoi, en fait, à l'époque, les premières histoires d'X-Men. Mais juste une question, Julien, toi qui n'as pas lu beaucoup de Jeff Lubb ces derniers temps, enfin, je pense pas. Hein.
Ces derniers temps, non.
Non. Et justement, alors, tout le monde trouve que il est vraiment plutôt médiocre sur les trois quarts des choses qu'il a fait récemment. Mais moi, j'avais bien aimé cette mini-série. Alors, pour toi, c'était une bonne lecture, une bonne surprise?
Oui. Ouais, carrément. Alors bon, moi, j'ai un parti pris. J'aime beaucoup Jeff Lubb. C'est-à-dire aussi que je l'ai rencontré. Donc ça crée des liens, forcément.
Enfin, nous, par exemple, on t'a rencontré. On t'apprécie, ouais, voire moins d'ailleurs.
Ben, non, moi j'aime beaucoup Jeff Lubb. J'avais beaucoup aimé déjà tout ce qu'il avait fait sur ses Batman, que ce soit Hush, que ce soit Long Halloween. Que ce soit
oui. Ça, tout le monde, je pense, est d'accord. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, mais bon, enfin, en tout cas, c'est très bon, quoi.
Ouais. Puis ensuite, j'avais poursuivi dans son Daredevil Yellow, et c'est là où pour moi Jeff Lubb a pris toute sa valeur, parce que il a une façon d'écrire des histoires hyper intimistes.
Ouais.
Qui sont à deux doigts de tirer des larmes quand même, quand Daredevil parle de son père ou quand il écrit sa lettre à Karen, c'est quand même quelque chose de très poignant. Ce qui est drôle, c'est que derrière l'histoire, on s'en souvient pas très très bien de ce qui se passe, mais c'est cette narration qui est propre à Jeff Lubb. Et Jeff Lubb est quelqu'un de très sensible, et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie dans ces récits de super-héros.
Je t'invite à lire Red Hulk. Mais tu verras sa sensibilité sous un autre jour.
C'est ça le paradoxe, c'est qu'on a tendance à réduire à Jeff Lubb à des combats entre super vilains et super héros.
Bah, ces derniers temps, entre Red Hulk et Ultimatum, c'est vrai qu'il nous a pas prouvé le meilleur de lui-même. Quoi.
Ouais, mais justement ces derniers temps et là, c'était vraiment l'exception. J'ai trouvé ce Ultimate X.
Ben, c'est-à-dire que, alors bon, je peux pas trop parler de ce qu'il a fait récemment sur Ultimates ou ou tout ça, quoi.
Bah, de la grosse baston, hein, généralement.
Ouais.
Justement, là, c'est pas pareil. Là, là, c'est, on est plus dans le, dans l'intime, justement, dans le.
Exactement. On retrouve, en tout cas, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est-à-dire qu'on retrouve cette narration avec des bulles d'un narrateur. D'ailleurs, le petit jeu, c'est de savoir qui est le narrateur. On s'en rend compte généralement aux deux tiers de l'épisode. On sait pas trop qui est le narrateur. C'est rarement le personnage principal. C'est souvent le père d'un personnage. C'est très différent. C'est, on touche justement là encore à la sensibilité de cette personne aimant un personnage et on suit les aventures de ce personnage et donc cette personne va nous raconter un peu ce qu'elle ressent. Et ça, pour moi, c'est du bon Jeff Loeb. C'est là où il est bon et là, il l'a fait plutôt bien. Donc j'ai retrouvé moi ce que j'avais aimé chez lui, notamment dans ses séries de couleurs, dans ce Ultimate Avengers, enfin Ultimate X.
Ouais. Et est-ce que ça t'a donné envie de lire la suite des aventures des nouveaux X-Men version Ultimate? Ah, pas plus que ça.
Peut-être, oui. Bah faut voir. Faut voir parce que c'est notre équipe. Moi, si j'ai acheté ce tome-là, c'est parce que c'est Arthur Adams qui dessine. Arthur Adams, le mec, il est exceptionnel, quoi. Ça fourmille de détails. Les costumes, enfin, je veux dire, quand les personnages sont habillés, quand ils portent un jean, on voit que c'est un jean. C'est, moi, ce que je reproche beaucoup à beaucoup de dessinateurs, c'est que...
C'est un jean gris.
Oh là 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 là.
Ce que je reproche à beaucoup de dessinateurs, c'est qu'ils s'inspirent des BD qui ont été faites précédemment et pas de la vraie vie. C'est-à-dire que quand une fille est agressée dans la rue, c'est par un mec qui a un perfecto. Et les gens qui font peur dans la rue aujourd'hui, bah c'est pas Renault, quoi, hein, c'est Joey Starr, quoi.
Quoi, les années 80 sont finies? Je savais pas.
Ça fait 30 ans que c'est fini, les années 80.
Non, mais je savais pas, moi.
Mais c'est ça que je reproche à beaucoup de dessinateurs, c'est-à-dire que, voilà, ils se sont pas mis à jour. Là, on voit que... Hudson, le blond avec les griffes, je dis pas qui il est le fils.
Oh bah. la question, le suspense est à son comble, hein, dis donc.
Mais bon, il porte un sweat à capuche. Karen porte une mini jupe sur un legging. Et ils ont des gilets en laine. Dans la vraie vie, les gens sont habillés comme ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Arthur Adams, en plus de son dessin exceptionnel, mais surtout, alors il est lent, oui, mais à mon avis, il sort de chez lui pour réussir à faire des choses comme ça.
Ah, ça prend du temps.
Et bah oui, ça doit être quelqu'un qui, très probablement, doit aller faire des cours aux Beaux-Arts sur modèle, ou bien, tout simplement, il prend le métro et puis il passe une demi-heure dans le métro à sketcher les gens qui sont dans le métro. Tout ça pour dire, parce que je digresse, que moi, si je l'ai acheté, c'est principalement pour Arthur Adams. Ça a été une bonne lecture. Ensuite, le reste, bon, ma foi, j'ai cru voir que c'était Nick Spencer et Paco Medina qui ferait Ultimate Comics X-Men.
Mais c'est une très bonne surprise.
Ah, bah alors, écoute, dans ces cas-là, je tenterai.
C'est une très bonne surprise, ouais. C'est le titre Ultimate actuellement qui me plaît le plus. Sachant que c'est quand même une franchise. Enfin, la version Ultimate, ça m'intéresse pas tant que ça, mais franchement, l'Ultimate X-Men actuel vaut le coup d'œil.
Ah bah écoute, je vois que Panini va sortir un bimestriel Ultimates avec donc Ultimates, enfin les Ultimates quoi.
Oui, Ultimate Comics, je sais plus comment ça s'appelle, Ultimate Comics X-Men. Steve.
Ça va être ça. Doit y avoir X-Men, doit y avoir Spider-Man et puis les Ultimates. Qui sont les Avengers.
Alors, j'ai les titres exacts. Ultimate Comics Spider-Man. Bon, ok. Ultimate Comics 2. The Ultimates.
Oui. Mais ça fera marrer notre fan de. On a un fan de l'univers Ultimate absolu qui est. Rappelle-moi Steve.
King Head,
voilà. Et justement, il nous disait, mais non, mais c'est très simple à retenir, etc. Mais moi, je m'y perds toujours autant dans les titres.
Moi aussi. Non, honnêtement, Ok, j'avoue, j'essaye pas non plus des masses, mais ça me donne même pas envie d'essayer. Les titres deviennent trop compliqués, quoi. Comme ça, Ultimate V2, V3, V4. Mais voilà, rajoutons pas Ultimate Comics avant, ça devient trop compliqué, quoi.
Bah, oui, je pense qu'on s'en sortira quand même. C'est pas non plus de la physique nucléaire, mais...
Pas loin, hein.
Mais ouais, faut reconnaître que ils se sont dit, tiens, on a une solution simple pour nommer les titres et une solution plus compliquée. Qu'est-ce qu'on choisit? Non, la simple, c'est trop évident. Donc, Non, je pense que ce bimestriel sera quelque chose à prendre. On verra ça. Mais pour en revenir donc à ce magazine-là, quoi. Enfin, si on devait mettre une note, pour moi, c'est un bail. Parce que c'est une bonne histoire, un bon format, un Arthur Adams exceptionnel, qui on retrouve aussi un peu ce qui lui plaît à Arthur Adams, c'est-à-dire que on voit que Dent de Sabre ressemble parfois plus à un gorille ou à un loup-garou des vieux films de la Hammer que à Dent de Sabre tel qu'on le connaît. Enfin, c'est vraiment deux grands auteurs de comics qui font un bon comics, et ça fait plaisir.
Très bien. Bah écoute, je crois qu'on peut pas l'avoir mieux vendu.
Non, et franchement, je partage cet avis et allez-y quoi. C'est vraiment une bonne petite lecture de ce mois-ci pour pas cher.
Le seul petit bémol que je mettrais, mais ça c'est de la faute à personne, je dirais, ou peut-être aussi d'Arthur Adams, c'est que comme tu disais, Benny, il a fallu des mois et des mois et des mois entre chaque épisode, et ils ont décidé que cette série régulière deviendrait une mini-série. Donc, à la fin de l'histoire, ben, finalement, il se passe rien, c'est juste une constitution d'une équipe, et ça y est, l'équipe est constituée, mais il ne s'est rien passé. Je pense que Jeff Lubb devait réfléchir à ensuite créer une action, une dynamique à partir de ça, et là, c'est vrai que ça manque un peu.
Bah, le truc aussi, c'est que ça rejoint un peu ce qu'il y a dans Spider-Man Blue, Daredevil Yellow et compagnie. C'est des histoires, finalement, comme tu disais, où il se passe rien, mais ouais. Où tout est dans la psychologie des personnages.
Bah, ce qui est gênant, c'est quand on a une constitution d'une équipe et que cette équipe, on n'en fait rien.
Bah, Nick Spencer, justement, s'en occupe après, quoi.
Ah, du coup. Ouais, autant pour moi.
Ah oui, c'est quand même repris un petit peu. Enfin, si je dis pas de bêtises, parce que je crois. Hein. C'est tellement ancien maintenant que, mais je crois effectivement qu'on a les conséquences quand même de ça dans la série actuelle. Ouais.
Bah, c'est l'éternel problème des retards. De toute façon, on pourra pas changer les choses. C'est vrai qu'un retard sur une série, surtout un retard quand on a des retards qui atteignent les 6 mois, ça plombe quoi qu'il arrive. On aura beau faire ce qu'on veut, ça plombe la série. En termes de vente, en termes d'intérêt, voilà.
C'est... Bah, je l'avais dit à l'époque dans le weekly, c'était vraiment à suivre en TPB. Donc heureusement qu'on l'ait en français comme ça.
Je sais pas trop. Donc c'est Mark Paniccia qui est l'éditeur de la version US. Je sais pas trop qui a eu l'idée de mettre Art Adams sur ce genre de format.
Il faut la préparer avant de la sortir, quoi. Il faut qu'elle soit terminée avant d'être sortie, au moins pour le premier numéro. Quoi.
Je pense que ils ont dû se dire, ça y est, il est à 2,5 numéros de fait, on il a 2 numéros d'avance ou quelque chose comme ça, on peut y aller. Bon, mais Art Adams, il est pas célèbre pour sa rapidité.
Donc. Déjà, c'était censé être une série qui sortait tous les 2 mois à l'époque. Hein. Et même comme ça, ils ont pas réussi à tenir les dés. Donc, oui. Moi, ça reste problématique, quoi. C'est la même problématique que pour les titres Icon, que pour pas mal de séries en retard, justement. Même
tout le monde n'est pas en Blefield, hein.
Ouais, non, mais quand on n'arrive pas à tenir un délai de 2 mois entre chaque épisode, il y a quand même un souci, quoi.
Quand on n'arrive pas à faire un épisode.
Oui et non.
Eh ben, on n'en fait pas deux. Voilà, monsieur.
Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que...
Ah, bah oui, c'est vrai. Alors, Julien aime quand même Rob Liefeld. Enfin, il sait pas qu'il aime bien, mais quand même.
Ah, ouais, déjà, oui.
Tu le détestes pas.
Non, je ne le déteste pas.
Bah, au moins non plus, remarque.
Mais, bon, c'est deux choses différentes. Reprocher à Art Adams d'être lent, c'est-à-dire qu'on vient chercher Art Adams pour une foultitude de détails dans ses pages, et après on lui dit, tu sors pas ton comics en 5 semaines, ou même en 8, pour 2 mois. Ben oui, mais enfin, en même temps, si tu veux du Rob Liefeld, va chercher Rob Liefeld, et là t'es sûr, t'as 2 comics par mois.
Ouais, enfin, non, pas forcément, mais le truc, c'est que, ouais, ils auraient peut-être dû planifier la chose un peu en avance, surtout que, bon, c'est une histoire un peu extérieure, quoi, tout ce qui se passe dans l'univers Ultimate. Honnêtement, hein, je pense que ces 5 numéros sont sortis en 2 ans de temps.
Ouais.
Bah, pour moi, je pense qu'on ne met pas un artiste lent sur une série régulière, point barre. Commercialement parlant, c'est une erreur.
Bah, tel que j'imagine, c'est que il devait avoir un plan pour un deuxième story arc à notre artiste, et puis éventuellement Art Adams revenait pour un troisième story arc ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il devait, parce que bon, de toute façon c'est ce qu'ils font sur la plupart de leurs titres. Marvel, ils ont un artiste sur un story arc, un autre sur le deuxième, et puis le premier revient sur le troisième, et puis il revient sur le quatrième. Et puis...
D'ailleurs, ils avaient prévu pour le volume 3 que ce soit toi qui décides.
Oh putain.
Mais hélas, comme il y a eu du retard, il n'y aura jamais de volume 3. Donc...
Non, mais enfin, moi, pour moi, un artiste lent comme ça, soit on le met sur une mini en deux ou trois épisodes qui est faite bien à l'avance avant qu'elle sorte, donc un truc qui est en dehors de la continuité, soit on le met sur un one shot. Mais on ne met pas sur un truc qui est censé être une série régulière. C'est la le meilleur moyen de se planter. Et la preuve, ça s'est planté.
Ouais.
Parce que malgré tout, une série régulière qui devient une mini à cause des retards, pour moi, c'est un plantage.
Il y a aussi le fait que l'univers Ultimate a encore une fois été remanié avec la mort de Spider-Man. Donc du coup, voilà, c'est arrivé à un moment où ils ont dû dire bon bah on arrête les frais, on va changer, on va relauncher à nouveau.
Je ne sais pas quels avaient été les chiffres de vente US. Il faudrait vérifier, reprendre les anciens chiffres et regarder un petit peu si ce retard, on va appeler ça comme ça malgré tout, n'a pas plombé les ventes, mais je pense que si. Honnêtement, je pense que si.
Je pense que ça s'est quand même bien vendu dans l'ensemble du
Hard Adapt. Combien de personnes en ont eu marre d'attendre et se sont dit bah je l'achèterai quand ça sortira en TPB quoi.
Oui. Mmh. Oui, c'est possible.
C'est le problème des retards, hein. Enfin, bon.
Ben moi franchement, enfin bon, c'est facile hein, de jouer à l'éditeur. Éditeur, c'est un métier de folie. Je le sais, je vois comment ça se passe. Chez Dark Horse, je me dis des fois, j'aimerais pas être à leur place, quoi, parce qu'ils sont, ils sont obligés d'être multitâches et c'est vraiment très compliqué.
Ils allaient te le proposer aussi, c'est dommage.
Ah ben, ça serait pas.
Non, bah tant pis. Non mais voilà, c'est fini. Tu l'as dit, c'est.
Mais quand je vois que voilà comment ça s'est passé, éventuellement, moi j'aurais dit à Art Adams, c'est un premier story arc en 5, on sort le numéro 1 quand t'as terminé le 4. Et ensuite, le deuxième story arc, c'est quelqu'un d'autre, et tu reviens pour le 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mettons. Et lui laisser à chaque fois un an pour faire 5 épisodes, ou 2 ans pour faire 5 épisodes. Mais à chaque fois, tac, il vient relancer le truc. Il y a moyen de s'occuper de ces, d'occuper, plutôt, ces artistes-là qui sont lents. Parce que, on sait qu'ils ont toujours un travail exceptionnel. Mmh. Bon, c'est mon humble avis.
Ok, très bien.
Juste un truc à rajouter par rapport à l'édition française de ce machin. Le mot de Christian Grasse à la fin. Alors, je lis, malgré un âge certain, Arthur Adams nous livre là des planches admirables.
Ça veut dire que quand on est vieux, on ne sait pas dessiner. On ne sait plus. Et
puis Arthur Adams a 48 ans, quoi.
T'es sûr qu'ils n'ont pas confondu avec le Adams qui faisait du Batman?
Et ouais, peut-être, je sais pas.
Comment il s'appelle Neil Adams, non?
Oui, Neil Adams, ouais. Ben, je sais pas, mais enfin, bon.
À mon avis, le fameux Christian Grasse qui est italien a peut-être confondu avec Neil Adams.
À mon avis, il sait pas de quoi il parle, mais bon.
Ou bien alors, c'est très très mal traduit son édito de l'italien, mais ça m'étonnerait.
Et écoutez, je sais pas, mais bon, Arthur Adams a quand même, c'est vrai qu'il est vachement vieux, il a, grosso modo, d'après Wikipédia, 8 mois de plus que Jim Lee. Et Jimmy, on a pas trop tendance à dire.
Non, oui, si, c'est dégueulasse. C'est vraiment de la merde ce qu'il fait. Et puis d'ailleurs, le pire de tout, c'était Don Rosa qu'on a vu au Lee Comics Festival. Impossible de dessiner un seul Donald. Hein.
Bon, c'était ouais, juste non. Mon petit.
Non mais oui, là c'est du foutage de gueule, honnêtement.
Oui.
Non mais les éditos de Christian. Ah, autant quelquefois, j'apprends des choses sur les séries Marvel. Ça arrive. Autant souvent, t'as des réflexions surtout sur les auteurs qui sont. Enfin, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fumé.
Bah, c'est-à-dire que souvent dans ces post-faces, au début c'était intéressant parce que je pense notamment lorsqu'il y avait comment ça s'appelait cette série où Carlos Pacheco et Kurt Busiek refaisaient toute la rétro-continuité des Vengeurs.
Oula,
Avengers Forever, tout à fait. Et donc à la fin de chaque épisode, il y avait tout un truc disant en page 1, on voit tel personnage, ce personnage, ça nous ramène à telle histoire. En page 4, on voit tel personnage, ça nous ramène à telle histoire. Là, c'était un vrai plus. Depuis quelques années, la post-face, c'est vous avez vu machin, il a tué Bidule. Bah oui, on l'a vu, on l'a lu.
Oui, oui.
C'est un peu. Je trouve que ça perd beaucoup en pertinence, quoi.
Oui, oui, bah de toute façon, Panini, les premières années, c'était vachement bien niveau contenu éditorial, et puis très vite, ça s'est étiolé.
C'était Marvel France.
C'est vrai, ouais, c'était Marvel France.
C'était Panini.
Ouais, ouais, c'était Panini Marvel France, quoi. T'avais un petit logo, je crois, Panini, mais effectivement, ça s'appelait surtout Marvel France. Enfin voilà, ça a duré qu'un temps. Je dirais les deux premières années étaient vraiment bien, et puis après, ça s'est dégradé progressivement.